Victor Hugo, Actes et paroles, depuis l'exil, 1876-1885, l'avenir. Au XXe siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera grande, ce qui ne l'empêchera pas d'être libre. Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de l'humanité. Elle aura la gravité douce d'une aînée. Elle s'étonnera de la gloire des projectiles coniques. Elle aura quelque peine à faire la différence entre un général d'armée et un boucher. La pourpre de l'un ne lui semblera pas très distincte du rouge de l'autre. Une bataille entre Italiens et Allemands, entre Anglais et Russes, entre Prussiens et Français, lui apparaîtra comme nous apparaît une bataille entre Picards et Bourguignons. Elle considérera le gaspillage du sang humain comme inutile. Elle n'éprouvera que médiocrement l'admiration d'un gros chiffre d'hommes tués. Le haussement d'épaules que nous avons devant l'Inquisition, elle l'aura devant la guerre. Elle regardera le champ de bataille de Sadova, de l'air dont vous regarderons le Quemadero de Séville. Elle trouva bête cette oscillation de la victoire aboutissant invariablement à de funèbres remises en équilibre, et Austerlitz toujours soldé par Waterloo. Elle aura pour l'autorité à peu près le respect que nous avons pour l'orthodoxie. Un procès de presse lui semblera ce que lui semblerait un procès d'hérésie. Elle admettra la vindicte contre les écrivains, juste comme nous admettons la vindicte contre les astronomes. Et sans rapprocher autrement Béranger de Galilée, elle ne comprendra pas plus Béranger en cellule que Galilée en prison. Et Paul Cibore, afin d'être sa peur, sera sa joie. Elle aura la suprême justice de la bonté. Elle sera pudique et indignée devant les barbaries. La vision d'un échafaud dressé lui fera affront. Chez cette nation, la pénalité fondra et décroîtra dans l'instruction grandissante, comme la glace au soleil levant. La circulation sera préférée à la stagnation. On ne s'empêchera pas de plus de passer. Aux fleuves frontières succéderont les fleuves artères. Couper un pont sera aussi impossible que couper une tête. La poudre à canon sera poudre à forage. Le salpêtre, qui a pour utilité actuelle de percer les poitrines, aura pour fonction de percer les montagnes. Les avantages de la balle cylindrique sur la balle ronde, du silex sur la mèche, de la capsule sur le silex et de la bascule sur la capsule seront méconnus. On sera froid pour des merveilleuses couleuvrines de 13 pieds de long, en frotte frettée, pouvant en tirer au choix des personnes le boulet creux et le boulet plein. On sera ingrat pour Chassepot dépassant Drèze et pour Bonin dépassant Chassepot. Qu'au XIXe siècle, le continent, pour l'avantage de détruire une bourgade, Sébastopol et sacrifier la population d'une capitale, 785 000 hommes, cela semblera glorieux mais singulier. Cette nation estimera un tunnel sous les Alpes, plus grand que la Gargousse Armstrong. Elle poussera l'ignorance au point de ne pas savoir qu'on fabriquait en 1866 un canon pesant 23 tonnes appelé Bigiville. D'autres beautés et magnificences du temps présent seront perdues. Par exemple, chez ces gens-là, on ne verra plus de ces budgets tels que celui de la France actuelle, lequel fait tous les ans une pyramide d'or de 10 pieds carrés de base et de 30 pieds de haut. Une pauvre petite île comme Jersey y regardera à deux fois avant de se passer, comme celle de la fête le 8 août 1866, la fantaisie d'un pendu dont le gibet coûte 2800 francs. On n'aura pas de ces dépenses de luxe. Cette destination aura pour législation un facsimilé, le plus ressemblant possible du droit naturel. Sous l'influence de cette nation motrice, les incommensurables friches d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Australie seront offertes aux émigrations civilisantes des 800 000 bœufs actuellement brûlés pour les peaux dans l'Amérique du Sud. Ils seront mangés et elle fera ce raisonnement que s'il y a des bœufs d'un côté de l'Atlantique, il y a des bouches qui ont faim de l'autre côté. Sous son impulsion, la longue traînée des misérables envahira magnifiquement les grasses et riches solitudes inconnues. On ira aux Californies et aux Tasmanies, non pour que l'on trompe l'œil et grossier à pas d'aujourd'hui, mais pour la terre, les meurs de faim et les vains du pied, ces frères douloureux et vénérables de nos profondeurs, splendeurs myopes et de nos prospérités égoïstes, auront, en dépit de Malthus, leur table servie sous le même soleil. L'humanité essaimera hors de la cité même devenue étroite et couvrira de ses ruches les continents. Les solutions probables des problèmes qui munirissent la locomotion aérienne, pondérée et dirigée, le ciel peuplé d'air, navires, aideront à ces dispersions fécondes et verseront de toutes parts la vie sur le vaste fourmillement des travailleurs. Le globe sera la maison de l'homme et rien en sera perdu. Les Coriantes, par exemple, ce gigantesque appareil hydraulique naturel, ce réseau veineux de rivières et de fleuves, cette prodigieuse canalisation toute faite, traversée aujourd'hui par la nage des bisons et charriant des arbres morts, portera et nourrira 100 villes, et quiconque voudra aura sur un sol vierge un toit, un bien-être, une richesse, à la seule condition d'élargir à toute la terre l'idée patrie, et de se considérer comme citoyen et laboureur du monde, de sorte que la prospérité, ce grand droit humain, cette suprême liberté, cette maîtrise de l'esprit sur la matière, cette souveraineté de l'homme interdite à la bête, loin d'être supprimée, sera démocratisée et universalisée. Il n'y aura plus de ligature, ni péage aux ponts, ni octroi aux villes, ni douane aux états, ni isthme aux océans, ni préjugés aux âmes. Les initiatives en éveil et en quête feront le même bruit d'ailes que les abeilles. La nation centrale, d'où ce mouvement rayonnera sur tous les continents, sera parmi les autres sociétés ce qu'est la femme modèle parmi les métairies. Elle sera plus que nation, elle sera civilisation, elle sera mieux que civilisation, elle sera famille. Unité de langue, unité de monnaie, unité de maître, unité de méridien, unité de code, la circulation fiduciaire à son haut degré, le papier monnaie à coupon faisant un rentier de quiconque à 20 francs dans son gousset, une incalculable plus-value résultant de l'abolition des parasitismes, plus d'oisiveté, l'arme au bras, la gigantesque dépense des guérites supprimées, les 4 milliards que coûtent annuellement les armées permanentes, laissés dans la poche des citoyens, les 4 millions de jeunes gens travailleurs qu'annule honorablement l'uniforme restitué au commerce, à l'agriculture et à l'industrie, partout le fer disparu, sous la forme glaive et chaîne et reforgé sous la forme charrue, la paix déesse à 8 mamelles, majestueusement assise au milieu des hommes, aucune exploitation, ni des petits par les gros, ni des gros par les petits, et partout la dignité de l'utilité de chacun, sentie par tous, l'idée de domesticité purgée de l'idée de servitude, l'égalité s'entend toute construite de l'instruction gratuite et obligatoire, l'égout remplacé par le drainage, le châtiment remplacé par l'enseignement, la prison transfigurée en école, l'ignorance qui est la suprême indigence abolie, l'homme qui ne sait pas lire aussi rare que l'aveugle né, le jus contra legem compris, la politique résorbée par la science, la simplification des antagonismes produisant la simplification des événements eux-mêmes, le côté factice des faits, c'est l'évident pour loi, l'incontestable pour unique Sénat, l'Institut. Le gouvernement restreint cette vigilance considérable, la voirie, laquelle a deux nécessités, circulation et sécurité. L'État n'intervient jamais que pour offrir gratuitement le patron et les purs. Concurrence absolue des à peu près en présence du type marquant l'étiage du progrès. Nulle part l'entrave, partout la norme. Le collège normal, l'atelier normal, l'entrepôt normal, la boutique normale, la ferme normale, le théâtre normal, la publicité normale, et à côté, la liberté du cœur humain, respectée au même titre que la liberté de l'esprit humain, aimée étant aussi sacrée que pensée. Une vaste marche en avant de la foule, idée conduite par l'esprit légion, la circulation décuplée ayant pour résultat la production et la consommation centuplée, la multiplication des pains de miracles devenus réalité, les cours d'eau endigués, ce qui empêchera les inondations, et empoisonnés, ce qui produira la vie à bas prix, l'industrie engendrant l'industrie, les bras appelant les bras, l'œuvre faite se ramifiant en innombrables œuvres à faire, un perpétuel recommencement sorti d'un perpétuel achèvement, et en tout lieu, à toute heure, sous la hache féconde du progrès, l'admirable renaissance des têtes de lit enceintes du travail. Pour guerre, l'émulation, l'émeute des intelligences vers l'aurore, l'impatience du bien gourmand dans les lenteurs et les timidités, toute autre colère disparue, un peuple fouillant les flancs de la nuit et opérant au profit du genre humain une immense extraction de clarté. Voilà quelle sera cette nation. Cette nation aura pour capitale Paris. Elle ne s'appellera point la France, elle s'appellera l'Europe. Elle s'appellera l'Europe au XXe siècle et au siècle suivant. Puis, transfigurée encore, elle s'appellera l'humanité. L'humanité, nation définitive, est dès à présent entrevue par les penseurs, ces contemplateurs des pénombres. Mais ce à quoi assiste le XIXe siècle, c'est à la formation de l'Europe. Vision majestueuse. Il y a dans l'embryogénie des peuples, comme dans celle des êtres, une heure sublime de transparence, le mystère consent à se laisser regarder. Et au moment où nous sommes, une gestation auguste est lisible dans les flancs de la civilisation. L'Europe une y germe. Un peuple qui sera la France sublimée est en train d'éclore. L'ovaire profond du progrès fécondé porte sous cette forme dès à présent distincte l'avenir. Cette nation qui sera palpite dans l'Europe actuelle comme l'être ailé dans la larve reptile. Au prochain siècle, elle déploiera ses deux ailes, faites l'une de liberté, l'autre de volonté. Le continent fraternel, tel est l'avenir. Qu'on en prenne son parti, cet immense bonheur est inévitable. Avant d'avoir son peuple, l'Europe a sa ville. De ce peuple qui n'existe pas encore, la capitale existe déjà. Cela semble un prodige, c'est une loi. Le fœtus des nations se comporte comme le fœtus de l'homme. Et la mystérieuse construction de l'embryon, à la fois végétation et vie, commence toujours par la tête.